Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et voici une foule immense que personne ne pouvait dénombrer, de toutes nations, races, peuples et langues, devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes en main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Qui sont donc mes frères, ces gens que personne ne peut dénombrer, vêtus de robes blanches, qui poussent des cris de joie, d'admiration devant le trône et devant l'agneau. Vous me direz peut-être que la question est trop facile et que la réponse est évidente. Il s'agit de la multitude des élus dans le ciel. Il faut pourtant croire que ce n'est pas si évident que cela, car, précisément, la question est posée dans le livre de l'Apocalypse, juste après le passage qui a été choisi aujourd'hui en guise d'épître. En effet, juste après cette vision, l'auteur de l'Apocalypse, saint Jean, est interpellé par un des vieillards qu'il a sous les yeux et qui semble vouloir vérifier qu'il comprend bien ce qu'il voit. Prenant la parole, le vieillard demande donc à saint Jean, « Ceux que tu vois revêtus de ces robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Avec humilité et prudence, saint Jean renvoie la question à son interlocuteur. « Monseigneur, dit-il, vous le savez. » Et alors, le vieillard reprend la parole pour donner l'explication suivante. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Et celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. L'ardeur du soleil ne les accablera plus, ni aucune chaleur brûlante, car l'agneau qui est au milieu du trône sera leur pasteur et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. En fait, mes frères, nous retrouvons ce que Jésus nous enseigne dans les béatitudes de l'Évangile. D'où viennent les élus du ciel? Réponse: de la grande tribulation. Ils ont été persécutés pour la justice. Heureux êtes-vous, dit Jésus, lorsqu'on vous insulte et vous persécute, et lorsqu'on dit contre vous toutes sortes de mensonges à cause de moi. « Réjouissez-vous, exultez, car votre récompense est grande dans les cieux. » En fait, on peut comparer point par point la description du ciel qui est donnée par Jésus dans les Béatitudes, puisqu'il nous donne 8 qualificatifs sur la béatitude du ciel, et la description qui est tracée dans l'Apocalypse au chapitre 8 et 21. On y trouve les mêmes caractéristiques et les mêmes contrastes, car la réalité du ciel est tellement riche qu'on ne peut en donner une idée qu'en multipliant les contrastes. D'abord, il y a bien sûr le contraste entre la réalité présente et celle de l'éternité. Ici-bas, c'est la tribulation, la persécution, les larmes, la faim, la soif, l'ardeur brûlante du soleil. En haut, ils n'auront plus ni faim ni soif. Dieu lui-même les abritera sous sa tente et essuiera toute larme de leurs yeux. Mais cela est très loin de suffire pour décrire la béatitude céleste. Pour s'en faire une petite idée, on est obligé de multiplier les contrastes, non pas seulement avec ce que nous connaissons ici-bas, mais aussi entre les différents aspects de ce bonheur lui-même. Et en le décrivant de 8 façons différentes, Jésus nous montre que la béatitude qui nous est promise sera à la fois une miséricorde et une justice, à la fois une consolation et une pleine satisfaction de tous nos désirs, à la fois un très vaste royaume et une famille, la plus aimante des familles, et à la fois un pays merveilleux et le plus haut des délices spirituels, la vision de Dieu. Jésus nous promet tout cela. Et comme ici-bas, nous avons besoin d'encouragement, d'espérance, besoin de ressorts spirituels, prenons encore, mes frères, quelques instants pour considérer cette joie immense, parfaite, débordante, qui est déjà celle des saints du ciel et qui est aussi préparée pour nous. D'abord, la joie du ciel sera débordante parce qu'elle unira de façon parfaite la miséricorde et la justice. La miséricorde est première, puisque tout vient de Dieu. Le ciel, d'ailleurs, n'est pas seulement un don de Dieu, c'est encore un pardon de Dieu. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie, dit l'Apocalypse, qui précise que les élus ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ils ne sont pas au ciel par innocence, personne n'est au ciel par pure innocence, ils ont dû être rachetés. Cela fait donc déjà une double miséricorde et il s'en joint une troisième, qui est la grâce que Dieu nous donne de coopérer nous-mêmes à notre salut, de sorte que nous ne le recevons pas seulement à titre de don, mais aussi à titre de récompense. Jésus lui-même nous le dit, « Réjouissez-vous, car votre récompense est grande dans le ciel. » L'Apocalypse présente aussi le ciel comme le gain de celui qui est vainqueur. « Celui qui vaincra possédera ces choses, » dit-il. Et Dieu déclare, « Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Autrement dit, au ciel, dans l'éternité, nous chanterons les miséricordes de notre Dieu, « Misericordias Domini in eternum cantabo », nous exulterons à l'idée que tout bien vient de lui, et évidemment nous n'aurons aucune vaine complaisance en nous-mêmes, et pourtant notre joie sera d'autant plus vive que Dieu nous aura donné d'être la cause seconde de notre bonheur en nous faisant mériter notre récompense. Et c'est pour cela aujourd'hui que nous fêtons les saints, en les célébrant. Nous célébrons bien sûr la miséricorde, nous célébrons le sang de l'agneau par lequel ils ont été purifiés, mais nous chantons aussi leur victoire. Et c'est pour ça que les protestants ne veulent pas célébrer les saints parce qu'ils ne veulent voir qu'un aspect des choses. Ils pensent qu'accorder une part au mérite des hommes, c'est diminuer la part de Dieu. Mais c'est exactement l'inverse. La miséricorde de Dieu est d'autant plus grande qu'il nous donne cette grâce de devenir en partie cause seconde de notre salut. Et ainsi, au ciel, nous nous réjouirons de la miséricorde de Dieu, mais en même temps, nous nous réjouirons de sa justice. Et cela rendra notre joie d'autant plus vive. Il y a un autre contraste du même genre qui est souligné par Jésus lorsqu'il nous présente le ciel comme la satisfaction de tous nos désirs, le rassasiement parfait. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, mais aussi comme la consolation proportionnée à nos larmes de cette terre. Car Jésus ne dit pas seulement, comme l'Apocalypse, que la mort ne sera plus et qu'il n'y aura plus de deuil ni de douleur. Il fait un lien entre les pleurs et la joie, en déclarant « Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Ce qui est une façon de dire qu'il y aura au ciel une plénitude de bonheur pour tous, mais que la tendresse de Dieu se manifestera particulièrement pour ceux qui ont été meurtris ici-bas. Et quelle qu'ait été la grandeur, la gravité des maux que nous avons subis, et quand nous y sommes au milieu, ça nous apparaît toujours très grand, nous nous rendrons compte de l'autre côté qu'il n'y a pas de comparaison entre ce que nous avons subi et la consolation que cela nous mérite. Il y a quelque chose d'analogue avec le petit enfant qui se fait très légèrement mal et qui se précipite vers sa maman pour être consolé. Il va trouver davantage de consolation dans l'affection que va lui manifester sa mère qu'il n'a éprouvé de douleur en tombant. Et de la même manière, au ciel, Dieu nous manifestera d'autant plus son affection, il nous donnera d'autant plus de consolation que nous aurons participé aux épreuves ici-bas, et ce sera pour nous un regain de bonheur. Un autre contraste que nous présente notre Seigneur Jésus-Christ est celui entre le royaume du ciel et le bonheur familial que nous y éprouverons. C'est un royaume qui nous est promis, c'est-à-dire un très vaste ensemble, une cité dont les habitants ne peuvent être comptés. Une cité stable, une cité parfaite, qui satisfera parfaitement tous nos instincts sociaux, car l'homme est fait pour vivre en société. Et la plus belle des sociétés est évidemment le peuple de Dieu. C'est ce qui est promis par l'Apocalypse. « Je serai son Dieu et il sera mon peuple. » Et ailleurs, « Il habitera avec eux et ils seront son peuple. » Mais cette multitude pourrait nous faire craindre une certaine dépersonnalisation. Or, il n'en est rien. Notre Seigneur nous promet la joie d'une famille, pas n'importe quelle famille, la famille de Dieu lui-même. Nous entrerons dans la famille de Dieu. On peut être membre d'une société politique en ne connaissant le chef que de très loin dans une monarchie. On peut vivre à des centaines de kilomètres du monarque. Mais là, au ciel, non seulement nous appartiendrons tous au royaume de Dieu, mais nous serons tous intégrés dans sa famille et nous bénéficierons par le fait même de cette charité qui fera que personne ne nous sera indifférent. Aucun de ceux que nous rencontrerons ne sera pour nous un inconnu. Nous serons tous dans la même famille par la charité divine. Enfin, quatrième contraste sur lequel insiste notre Seigneur. D'un côté, il dit « Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre ». Et le ciel est ainsi comparé à la terre promise, avec déjà un contraste avec ce que les Juifs ont dû faire dans l'Ancien Testament, puisque la terre promise a dû être conquise par la guerre, par la violence, tandis que la terre promise du ciel sera conquise par la douceur, nous dit notre Seigneur. Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. Il y aura dans l'éternité une terre nouvelle et des cieux nouveaux, nous déclare l'Apocalypse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, et de façon curieuse, mais c'est un symbole, l'Apocalypse précise qu'en revanche, il n'y aura plus de mer. Ici-bas, nous avons le ciel, la terre et la mer. L'Apocalypse dit qu'il y aura des cieux nouveaux, une terre nouvelle, mais plus de mer. Pourquoi ? Parce que la mer est le symbole de ce qui est mouvant, de ce qui est instable, et le bonheur du ciel sera parfaitement stable. C'est pourquoi, dans son langage symbolique, il dit qu'il n'y aura plus de mer. Mais il ne faut pas concevoir le bonheur du ciel de façon trop terrestre. C'est toujours notre tentation. Nous voyons les réalités divines à l'aune des réalités que nous connaissons, les réalités humaines. Et ça ne sera pas seulement la terre promise, ça sera surtout et avant tout la vision de Dieu. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et l'Apocalypse précise, lui-même, il sera le Dieu avec eux. La nouvelle Jérusalem n'a besoin ni de soleil, ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau est son flambeau. Et un peu plus loin, l'Apocalypse ajoute, ils verront sa face, la face de Dieu, et son nom sera gravé sur leur front. Et c'est évidemment dans cette vision de Dieu que sera la joie principale du ciel qui découlera en nous comme une lumière venant de la béatitude de Dieu lui-même. Profitons, mes frères, de cette fête de la Toussaint et de tout ce mois de novembre pour nous rappeler ces réalités qui nous attendent. On considère souvent le mois de novembre comme le mois des âmes du purgatoire, et à très juste titre, prions pour les âmes du purgatoire, mais n'oublions pas que elles sont elles-mêmes destinées comme nous au ciel, et donc pensons au ciel, essayons de raviver notre espérance, et puis bien sûr, mettons-nous dans les dispositions des béatitudes qui indiquent que pour pouvoir aller au ciel, il faut se détacher de cette terre. C'est l'idée générale, bienheureux les pauvres en esprit, bienheureux les doux, bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui ont faim et soif, bienheureux ceux qui sont purs. Tout cela, on dit que nous devons nous purifier de des affections désordonnées de cette terre pour pouvoir vraiment tendre vers le ciel. C'est aussi ce que dit l'Apocalypse, qui juste avant la description de cette nouvelle Jérusalem, lance cet interdit. Dehors les chiens, les magiciens, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime le mensonge et s'y adonne. Nous devons donc à la fois travailler à nous purifier en purifiant notre cœur, mais nous ne pouvons le faire qu'en lavant notre robe dans le sang de l'agneau. Que la très sainte Vierge Marie et tous les saints daignent nous aider à les rejoindre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.